VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Michel Joseph. Au sommaire ce 12 avril 2016.
En République du Congo, des dizaines de jeunes ont été arrêtés dans la région du Poule, bombardés par l'armée.
Actuellement au Congo, nous pouvons dénombrer une cinquantaine de cas de prisonniers politiques. Et la privation de liberté de ces personnes ne se justifie pas. Et le fait d'avoir exprimé les opinions politiques ne peut pas être considéré comme étant une infraction.
Trésor Nzila, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
Élection présidentielle au Tchad, l'Union européenne appelle à la transparence dans le processus électoral suivant le scrutin de dimanche dernier.
Nouveau gouvernement en Centrafrique, 23 ministres, dont des technocrates peu connus de la scène politique.
Brigui Raffini, premier ministre nigérien reconduit par le président réélu, a formé une nouvelle équipe gouvernementale de 38 ministres.
Pénurie de carburant au Nigeria, la population se retranche sur le marché noir.
22 ans après le génocide de 1994, le Rwanda commémore le massacre de 800 000 personnes, principalement des Tutsis.
Une première aux Nations Unies, les candidats au poste de secrétaire général peuvent faire campagne pour influencer le vote.
La Commission européenne présente aujourd'hui à Strasbourg de nouvelles mesures pour lutter contre l'opacité fiscale des multinationales.
Avant la Minute Éco et les sports, voici le journal.
Élection présidentielle au Tchad, alors que l'opposition dénonce des cas de fraude, l'Union européenne demande que le dépouillement et la compilation des votes se déroulent de façon transparente et vérifiable. Le point avec Eddy Issangou.
Le porte-parole de la diplomatie européenne se félicite dans un communiqué que les votes du dimanche se soient déroulés dans les calmes, ce qui selon lui témoigne de l'engagement des Tchadiens à voter et leur attachement à la stabilité malgré les tensions préélectorales et certaines difficultés logistiques. Il importe dans le même esprit, souligne les porte-parole de la diplomatie européenne, que les processus des dépouillements et des compilations de votes se déroulent dans l'ordre et de façon transparente et vérifiable. Pour ce qui est d'éventuelles contestations, le porte-parole recommande aux acteurs politiques de recourir plutôt aux voies légales existantes pour, le cas échéant, régler les contentieux. La veille, durant le vote, les chefs de l'opposition Salé Kebzabo, candidat rival du président sortant Idriss Déby, a accusé les régimes de bourrage d'urnes et d'achat des cartes d'électeurs. Le président Déby fait figure des grands favoris des 13 candidats en compétition. C'est son cinquième mandat qu'il brigue dans un climat de contestation après 26 ans de pouvoir sans partage.
En Centrafrique, le nouveau gouvernement, tant attendu, est finalement connu. Il est composé de 23 ministres, dont 4 femmes et 3 anciens candidats à la présidence. Le point avec Freeman Sipila.
La configuration du nouveau gouvernement centrafricain confirme la rupture annoncé par le nouvel exécutif. 23 membres, pas de ministre d'État ni de ministre délégué. 3 candidats à la présidentielle du 30 décembre dernier ont fait leur entrée. Joseph Yakété occupe le ministère de la Défense nationale. Armel Douban prend les commandes des affaires étrangères. Et Jean-Serge Bokassa prend la tête du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. 4 femmes dans l'équipe. Arlette Sombo Dibélé à l'environnement. Fernand Dingbo à la santé publique. Gisèle Panin au tourisme et à la francophonie. Enfin, Virginie Mbaïkwa aux affaires sociales et à la réconciliation. Plusieurs nouveaux visages, mais visiblement des technocrates peu connus de la scène politique centrafricaine. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Niger, une dizaine de jours après sa reconduction comme Premier ministre par le président réélu, Brigui Raffini a formé son équipe gouvernementale. La liste des ministres a été communiquée hier soir à la télévision nationale. Ils sont 38, dont 7 femmes. Abdoul Razak Idrissa à Niamey nous en dit plus.
Tous les caciques du parti présidentiel sont là, à l'exception de Kariyo Mahamadou, remplacé à la défense nationale par Hassoumi Massaoudou. Ce dernier s'est cède l'intérieur à Mohamed Bazoum en tant que ministre d'État. Foumakoye Gado, le vice-président du parti, lui garde son portefeuille du pétrole. Madame Kané Aïchatou Boulama se voit, elle, attribuer le plan, cédant ainsi les affaires étrangères à Ibrahim Yacouba, ancien directeur de cabinet adjoint du président de la République et candidat malheureux du premier tour de la présidentielle. Comme lui, deux autres candidats recalés au premier tour et ayant soutenu le président Issoufou Mahamadou au second tour font partie de l'équipe de Brigitte Raffini. Il s'agit de Kassoumama Mokhtar et de Lawan Magaji. Moro Amadou est maintenu à la justice sans toutefois la fonction de porte-parole du gouvernement. Sur les 38 membres, on dénombre 7 femmes et 3 ministres d'État, dont Albadé Abouba, le président du principal parti allié de la majorité. Il faut enfin noter qu'aucun membre de l'opposition politique ne figure parmi ces ministres, confirmant ainsi le rejet par l'opposition politique de la main tendue du chef de l'État au lendemain de sa réélection. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En RDC, mise en place du comité préparatoire du dialogue national cette semaine, le facilitateur désigné par l'Union africaine Edem Kodjo a déclaré travailler dans le souci de faire respecter le délai constitutionnel. L'ancien premier ministre togolais a par ailleurs lancé un appel à tous de rejoindre la table du dialogue. Notre station partenaire à Kinshasa, Top Congo FM, lui a tendu le micro.
Nous ne pouvons pas travailler avec l'idée de ne pas respecter les délais constitutionnels. Je l'ai déjà dit, et si ce n'était pas assez clair, je le redis. On l'a même mentionné dans le communiqué conjoint Union africaine, Nations unies, Union européenne, francophonie. C'est marqué clairement. Donc je le redis, le problème qu'il y a aujourd'hui dans le pays, c'est qu'il y a la constitution qu'il faut respecter, il y a les délais constitutionnels qu'il faut respecter, mais il y a aussi le problème que tous les jours qui passent sont des jours qui ne permettent pas de dire que nous allons respecter ces délais dans les meilleures conditions. Alors, que faisons-nous? Est-ce que nous allons attendre jusqu'à ce que les délais soient épuisés pour commencer à nous poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'un homme prudent et normalement avisé, le bon père de famille, nous voyons quelles sont les dispositions qu'ensemble, assis autour d'une table, nous pouvons prendre pour faire avancer les choses?
Les attaques perpétrées par Boko Haram contre les écoles, les élèves et les enseignants dans le nord-est du Nigeria ont des effets dévastateurs sur l'éducation, a déclaré Human Rights Watch dans un nouveau rapport. Le conflit a laissé presque 1 million d'enfants sans accès à l'école, tandis que les forces de sécurité nigérianes ont aussi contribué au problème en utilisant des écoles comme base militaire, affirme Human Rights Watch dans ce nouveau rapport, faisant état de l'intensification des attaques dans les états de Borno, Yobe et Kano. Entre 2009 et 2015, ces attaques ont détruit plus de 910 écoles et ont forcé la fermeture de 1500 autres. Au moins 611 enseignants ont été délibérément tués et 19 000 autres ont été obligés de fuir. Les islamistes ont enlevé plus de 2000 civils, dont de nombreuses femmes et jeunes filles et plusieurs groupes d'élèves.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Rupture avec une tradition vieille de 70 ans aux Nations Unies. Pour la première fois, les candidats au poste de secrétaire général battront campagne. En effet, ils s'adresseront à l'Assemblée générale dans l'espoir d'influencer le vote secret au Conseil de sécurité. Des détails avec Lionel Gaïma.
La quête du successeur de Ban Ki-moon, qui termine son second quinquennat, donne l'occasion à l'ONU d'innover. Comme à l'accoutumée, c'est le Conseil de sécurité qui fera une recommandation à l'Assemblée générale. Toutefois, après les changements introduits l'année dernière dans la procédure de nomination du numéro 1 de l'ONU, la liste ainsi que les CV des candidats ont été rendus publics pour la première fois. Par ailleurs, les 8 personnalités jusqu'ici engagées dans la course tiendront un forum à l'Assemblée générale durant lequel elles débattront de leurs compétences. Toutefois, il n'y aura pas de vote de l'Assemblée pour signaler au Conseil de sécurité sa préférence pour tel ou tel candidat. Qu'à cela ne tienne, il est important de savoir ce que pensent les autres, a déclaré l'ambassadeur de Russie à l'ONU, Vitaly Churkin. 56 pays membres menés par la Colombie et diverses ONG militent pour le choix de la toute première secrétaire générale onusienne. 4 de 8 candidats annoncés sont des femmes, notamment la Bulgare Irina Bokova, ancienne directrice générale de l'UNESCO, et l'ancien premier ministre de Nouvelle-Zélande, Helen Clark, qui dirige actuellement le PNUD.
Le premier ministre grec Alexis Tsipras a accusé la Macédoine d'avoir repoussé de manière honteuse les centaines de migrants qui ont tenté de forcer la frontière dimanche à Idoménie. Tandis que la Macédoine reproche à la police grecque sa passivité, les tensions restaient perceptibles dans le camp hier. Des migrants manifestaient en traînant un wagon devant la police sur la voie de chemin de fer transfrontalier qu'ils occupent. L'économie en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par John Lindon.
L'appui de la Banque mondiale aux pays en développement a atteint en 2015 son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008-2009. Les prêts accordés par la banque aux pays émergents et à faible revenu se sont élevés à 42,4 milliards de dollars contre 40,8 milliards en 2014. La banque, qui tient son assemblée de printemps avec le FMI cette semaine à Washington, s'est fixée pour objectif d'éradiquer l'extrême pauvreté d'ici 2030. La pénurie de carburant s'accentue au Nigeria. Le gouvernement nigérian a prévu une aide d'environ 200 millions de dollars pour les importations dans ce domaine. Tunde Fatunde, journaliste basé à Lagos, nous en dit plus sur les causes de cette pénurie.
C'est la première fois depuis à peu près plus de 15 ans qu'on n'a jamais eu ce genre de problème de pénurie d'essence. La vie économique et sociale de Lagos et l'ensemble du pays est aux arrêts parce que le gouvernement était incapable d'organiser, de gérer l'importation de l'essence.
La Banque centrale kényane s'engage à fournir des facilités financières à toute institution bancaire ou de microfinance. L'annonce a été faite par le gouverneur de la banque, Patrick Njoroge. Le président kényan Uhuru Kenyatta a pour sa part affirmé samedi son soutien aux actions du gouverneur de la Banque centrale pour protéger l'argent des déposants.
Merci John pour cette page économie. À présent, les sports présentés par Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Quart de finale retour de la Champions League ce mardi.
Le Real Madrid aborde un challenge difficile contre Wolfsburg. Après sa défaite 2-0 à l'aller, mais l'exploit à réussir rend le match encore plus excitant. C'est ce qu'a déclaré hier en conférence de presse l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane. Dans l'autre rencontre de ce mardi, Manchester City contre le Paris Saint-Germain. On se souvient qu'à l'aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul, 2-2 au Parc des Princes. Le milieu de terrain italien Marco Verratti, blessé jusqu'ici, fait partie des 24 joueurs convoqués pour affronter les Citizens.
Cannes féminine 2016, tristesse à Abidjan.
Les éléphantes n'iront pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont concédé un but à Abidjan au match retour face aux Égyptiennes. Elles sont donc éliminées. À suivre ce mardi, l'Algérie qui sera en danger à Nairobi après avoir concédé le match nul de partout face au Kenya. Le Cameroun est le pays organisateur. Et ce dimanche, le Zimbabwe s'est qualifié en battant la Zambie 3-2. La Guinée équatoriale a éliminé le Mali 2-1.
La FIFA menace de suspendre le Nigeria pour ingérence de la justice.
Si la décision de la Haute Cour fédérale était mise en œuvre, cela serait probablement considéré comme une ingérence dans les affaires internes de la fédération nigériane, a averti le secrétaire général de la FIFA par intérim. Dans cette lettre, il affirme que des sanctions sont possibles. La justice nigériane, souvenez-vous, avait déclaré la semaine dernière invalide l'élection entachée de soupçons d'irrégularité du président de la fédération, Amajou Pinnick, face à son concurrent Chris Guiwa. Or, selon les statuts de la FIFA, les fédérations nationales doivent gérer leurs affaires indépendamment, sans influence de parties tierces. La fédération nigériane a déjà annoncé qu'elle ferait appel de ce jugement. Si le Nigeria était suspendu, il pourrait être privé des matchs de qualification pour le Mondial 2018 en Russie. Ce serait une bien mauvaise nouvelle, puisque au mois de mars dernier, les Super Eagles, vainqueurs de la CAN 2013, avaient déjà été éliminés lors des éliminatoires de la CAN 2017.
Et en athlétisme, le Kenya va se mettre à la page.
Le président Uhuru Kenyatta s'est engagé ce lundi à faire une priorité de l'adoption de la législation antidopage à temps pour que les athlètes de son pays ne risquent pas d'être privés de Jeux Olympiques à Rio l'été prochain. Enfin, Nathalie, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
NBA, championnat de basket nord-américain, les résultats de la nuit dernière. La star des Lakers, Kobe Bryant, a disputé à Oklahoma City le dernier match à l'extérieur de sa carrière lundi, à deux jours de ses adieux à la NBA, au Staples Center de Los Angeles. Bryant, 37 ans, a marqué 13 points en 19 minutes et fini meilleur marqueur de son équipe, balayé par le Thunder, 112 à 79. Une victoire des Chicago Bulls face à New Orleans, 121 à 116. Victoire des Houston Rockets face à Minnesota, 129 à 105. Dallas est venu à bout de Utah Jazz, 101 à 92. Et Phoenix s'est incliné face à Sacramento, 101 à 105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En République du Congo, des dizaines de jeunes ont été arrêtés dans la région du Poul, selon des défenseurs des droits humains, affirmant qu'il y a actuellement une cinquantaine de prisonniers politiques dans le pays. Une situation qui contraste avec la mise au point de Brazzaville le week-end dernier contre la prise de position de Washington qui a condamné les irrégularités lors de l'élection présidentielle du 20 mars. Eddy Isango a joint à Brazzaville le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Trésor Nzila.
Il y a une vague d'arrestations déjà dans le pool. Le fait d'avoir été ex-milicien ninja aussi déjà un problème avec les services de sécurité. À l'heure actuelle, selon les informations déjà en association, on parle déjà de dizaines de jeunes qui sont arrêtés. Nous ne savons pas encore concrètement quels sont les motifs qu'on leur reproche. Donc il est difficile de donner plus d'informations.
Quel est l'essor de ces personnes qui sont arrêtées?
Ces personnes sont directement transférées à Brazzaville. L'accès n'est pas encore possible. Il est donc difficile de donner plus d'informations en ce qui concerne le traitement qui leur est réservé.
Quelles sont les cibles de ces bombardements? Est-ce que ce sont des maisons, des quartiers, des civils ou de camps d'anciens miliciens?
À ma connaissance, il n'y a pas de camps de miliciens dans ces localités. Et donc, c'est des bombardements apparemment aveugles. Mais étant donné que je ne suis pas sur le terrain, on n'a pas de collègues sur le terrain, donc il est difficile de savoir quels sont les objectifs qui sont ciblés par ces bombardements.
Washington a publié un communiqué dans lequel il interpelle le gouvernement congolais à respecter les droits du peuple, notamment les droits à la liberté d'expression, les droits à la liberté des réunions, les droits des mouvements. Qu'est-ce que vous en dites?
Nous partageons totalement cette position de Washington. Je pense que cette position reflète bien le plaidoyer que nous faisons sur la situation de respect des libertés en République. Je peux vous rassurer, en tant que défenseur des droits de l'homme, la situation des droits de l'homme en République du Congo est très inquiétante. Les libertés sont bafouées en toute impunité. On prive la jeunesse congolaise du droit à la liberté d'expression. On prive les leaders politiques de l'opposition de tous les droits et libertés politiques, alors que la République du Congo est signataire de plusieurs instruments internationaux. Les collaborateurs des leaders politiques qui sont aujourd'hui privés de liberté pour avoir exprimé leurs opinions par rapport au déroulement de l'élection présidentielle. Actuellement, au Congo, nous pouvons dénombrer une cinquantaine de cas de prisonniers politiques. Et c'est la privation des libertés de ces personnes ne se justifie pas. Le fait d'avoir exprimé les opinions politiques ne peut pas être considéré comme étant une infraction.
Trésor Nzila, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, était joint à Brazzaville.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Alors que le Rwanda commémore le génocide de 1994 ayant fait 800 000 victimes, principalement des Tutsis ainsi que des Hutus modérés, la douleur est encore présente parmi la population. Un reportage de Maurice Magoran.
Alors que le Rwanda commémore 22 ans du génocide de Tutsi de 1994, la douleur reste intacte parmi la population. À chaque commémoration, des centaines de Rwandais sont victimes de syndrome post-traumatique. Outre la douleur, les Rwandais de tous bords ont été choqués par le tweet dont les Juppé, ministre des Affaires étrangères français, de 1993 à 1995. Il a déclaré, je cite, « Faire le procès à la France de porter une part de responsabilité dans le génocide de Rwanda est une honte et une falsification historique. » Des propos intolérables pour Dr Jean-Pierre Dusingi Semongo, président d'Ibuka, une association de rescapés du génocide.
Vous avez une façon ou une autre du sang des nôtres sur vos mains. Vous avez profité de vos fortes fonctions, occupées juste avant, pendant et après le génocide, pour aider de plusieurs manières ceux qui ont préparé et exécuté le génocide commis contre le Tutsi.
Pour Paul Kagame, 22 ans après le génocide, aucun effort n'a été consenti par la France pour aller de l'avant.
Ceux qui ont commis le génocide n'ont jamais été jugés et ils n'ont toujours pas rendu compte de leurs actes. Cela continue à envenimer les relations et les politiques entre le Rwanda et la France. Même s'il y a des efforts pour essayer de résoudre ces problèmes, aucune solution concrète n'a encore été apportée.
Malgré quelques avancées, dont l'ouverture prochaine d'un deuxième procès en 22 ans contre deux génocidaires vivant en France et l'inauguration des lieux de mémoire, dont un à Paris, le silence continue de prédominer au plus haut niveau de l'État sur les responsabilités de la France dans le génocide contre le Tutsi au Rwanda. Un génocide qui a fait plus de 800 000 victimes entre avril et juillet 1994. Maurice Magohan, VOA Afrique, Kigali.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde. Cap à présent au Nigeria, où la pénurie de carburant défraie la chronique. Depuis quelques semaines, en effet, difficile pour les automobilistes de faire le plein. À Lagos, cette situation pousse les gens à s'approvisionner sur le marché noir. Pour tenter de régler le problème, le gouvernement a prévu une aide d'environ 200 millions de dollars afin d'importer du carburant. John Linden a joint Tunde Fatunde, journaliste à Lagos.
C'est la première fois depuis plus de 15 ans, on n'a jamais eu ce genre de problème de pénurie d'essence. Depuis plus de 3 semaines, la vie économique et sociale de Lagos et l'ensemble du pays est aux arrêts parce que le gouvernement était incapable d'organiser, de gérer l'importation de l'essence puisque les 4 raffineries ne fonctionnent pas.
Est-ce que ce manque de carburant ne développe pas un marché noir?
Absolument, ça va de soi. À partir du moment où le gouvernement a décidé de mettre fin aux subventions en matière de produits pétroliers, ce qui est une bonne chose. Mais en même temps, le gouvernement décide aussi de présider sur le prix des produits pétroliers que les importateurs amènent au Nigeria. Ça n'a pas de sens.
Le Nigeria, c'est le premier producteur africain de pétrole. Comment cela est-il possible?
Comme on dit à propos de la République démocratique du Congo, les gisements pétroliers est devenu une honte au Nigeria parce que une fois de plus, la classe politique est incapable d'organiser et de gérer les ressources pétrolières du pays.
On parle de 200 millions de dollars que le gouvernement a mis à la disposition pour essayer de régler le problème. Est-ce que c'est suffisant?
De toute façon, le problème n'est pas là. Si jamais le problème se résout aujourd'hui, ou bien à moyen terme, la pénurie disparaît, je peux vous assurer que d'ici 1 ou 2 mois, la même pénurie va réapparaître parce que la solution fondamentale n'a pas été mise à exécution par le gouvernement.
À votre avis, donc, c'est quoi le bout du tunnel?
Le bout du tunnel, c'est que rapidement, il faut libéraliser le secteur comme on a libéralisé le secteur de télécommunication. Il faut rendre le secteur plus compétitif. Il faut que autant d'importateurs soient autorisés d'amener le carburant au pays sans passer par la banque centrale. On a eu cette expérience avec la télécommunication. Et pourquoi pas ne pas répliquer un bon exemple dans le secteur de pétrolier? D'ici 2 ans, pour en terminer, le raffinage de Dangote sera achevé à Lagos. C'est un complexe pétrochimique. Si ça arrive, tous les raffinages du pays vont se transformer en musée parce que ça ne sert à rien. Le gouvernement n'est pas proactif, n'est pas dynamique en la matière. malheureusement, c'est le cartel, président Buhari, qui décide de maintenir cette intervention de l'État en matière de prix de carburant.
Notre confrère Tunde Fatunde était joint à Lagos, au Nigeria.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Dans le nord du Mali, plusieurs entreprises ont été saccagées et pillées pendant le conflit armé. Lors de l'Assemblée générale du Conseil national du patronat du Mali, les chefs d'entreprise des régions touchées par la crise depuis 2012 ont demandé un soutien aux autres patrons maliens. Selon eux, le plan de relance économique de l'État tarde à voir le jour. Chaque région a présenté ses doléances pour la reprise rapide des activités. Le point avec Kassim Traoré.
Ségou, la cité des Balanzans, a été secouée par la crise qu'a connue le Mali entier. Bakary Camara, président du conseil régional du patronat de Ségou.
Donc ce qui nous range quand même au rang des régions directement touchées, ça a beaucoup joué sur les activités, surtout dans le domaine du tourisme. Même le BTP est touché. Certaines zones d'intervention de ces entreprises sont directement affectées par la crise sporadique, les attaques sporadiques qui ont lieu dans le septentrion. Bon, les entreprises ne peuvent à présent pas évoluer à 100% de leur capacité.
Le conseil régional patronal de Tombouctou connaît d'énormes difficultés. Cela à cause de la crise que traverse le pays. Alfoussène Ouangara, du bureau du conseil régional du patronat de Tombouctou.
Nous à Tombouctou, avant nos bureaux ont été cassés et puis on a perdu le matériel. Actuellement, on n'a même plus, aujourd'hui on n'a même pas de bureau aujourd'hui à Tombouctou du patronat. C'est maintenant qu'on est en train de voir au niveau national pour relancer notre bureau et pour que nous-mêmes on relance nos activités à Tombouctou.
L'hôtellerie est le secteur le plus paralysé à Tombouctou. Les touristes ne vont plus au nord à cause de l'insécurité.
Ah, l'hôtellerie, la culture, ça ne marche pas du tout. On n'a presque pas de touristes à Tombouctou. Mais en tout cas, les hôtels ne marchent pas du tout. Et la culture aussi ne marche pas tellement. C'est tout ça, les gens sont dans la relance par rapport à tout ça. Donc on attend l'appui de l'État pour qu'on puisse vraiment nous réveiller. Quoi.
Gao est la plus grande ville au nord du Mali. Elle a subi toutes sortes d'actes barbares, des saccages, des pillages des biens publics et privés, sans compter l'occupation djihadiste avec le Moujaou. Toutes choses qui n'ont donné aucune chance aux entrepreneurs de la ville. Ibrahima B. Touré, président du conseil régional du patronat de Gao.
L'économie de la région, depuis les événements, le secteur privé n'a pas pu tourner comme il voudrait. Donc c'est d'ailleurs la cause pour laquelle nous avons soutenu un président aujourd'hui qui est là, qui est M. Kloueli, pour pouvoir soutenir le secteur privé au nord du Mali, surtout vu la crise qui s'est passée.
À Gao, tout a été saccagé, pillé et même souvent emporté. Des centres de santé, des banques, des écoles, tout comme les entreprises qui peinent encore à se réveiller.
Parce qu'ils ont été victimes d'une situation qui n'a pas encore été réglée pour certains. C'est tous les opérateurs économiques qui sont là-bas, du secteur privé, qui a été vraiment un problème aujourd'hui pour lequel le secteur privé n'a pas eu son vrai allure au nord. Cause pour laquelle nous sommes en train de voir avec le nouveau président faire des démarches pour que le secteur privé puisse avoir ses activités correctes au nord.
Les chefs d'entreprise de Gao comptent sur le président du Conseil national du patronat malien, Mamadou Sensi Koulibaly, afin que leurs rêves puissent devenir une réalité. Et pour le bonheur de l'économie de la cité des Askia, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Un Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. À la console, c'était Jimmy Cook. Et avec vous à la présentation, Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com pour l'info 24h sur 24. Bon mardi à toutes et à tous.